Paul Hervieux, Diogène le chien, chapitre 4e. Un jour, des gamins qui se rendaient à l'école buissonnière aperçurent discrètement rangé sous le portique d'un temple le tonneau de Diogène, ce logis trop large mais un peu court, dans lequel le philosophe pénétrait les pieds en avant lorsque le soleil resplendissait d'étoiles et la tête la première par les nuits pluvieuses. « Ah !» fit remarquer le plus grand de la bande, « voici la niche du chien Diogène. Si nous l'emplissions d'ordures !»« Oh non !» répliqua vivement le plus petit, « il vaut mieux planter autour des clous dont la pointe dépassera intérieurement. » »« Oui, 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 c'est cela, Viltiade a raison !» s'écrièrent en chœur tous les jeunes enfants. « Mais qu'il nous faut dire les clous et le marteau ?»« Bon, je m'en charge !» fit d'un air entendu le petit Miltiade en se mettant à courir. Il alla tout droit chez son oncle, qui était constructeur de barques dans le quartier de Faerle, et qu'il aimait de tout son cœur. « Mon oncle, lui dit-il, encore tout essoufflé, j'aurais bien besoin de clous. »« Allons, répondit celui-ci, tu as envie de te blesser. » Mais Miltiade fit semblant de ne pas avoir entendu et s'empara d'énormes pointes de fer. Ensuite, il ajouta, « Mon oncle, j'aurais aussi bien besoin d'un marteau. »« Ah, oh, je ne t'en confierai plus, » répondit le marcharpentier, « car tu as perdu celui que tu avais emporté pour casser des noix dans les champs lors des dernières dionysiaques, le jour de la fête de la bâchée. » Un marteau qui m'avait coûté 5 drachmes. « Ah oh non, par Herclès, je ne t'en confierai plus. »« Oh, mon oncle, » supplia l'enfant. « Non, 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 du reste, je ne veux pas que tu te serves de ces dangereux outils. Vois dans quel état je me suis mis la main hier en heurtant une méchante petite pointe. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as imaginé de faire ?» Les joues du petit Miltiade étaient devenues rouges comme des pommes d'api et il ne répondit rien. Alors l'oncle prit un air sévère. « Je gage que tu as quelques mauvaises idées en tête. » L'enfant tenait les yeux baissés et se grattait l'oreille. « Tu penses construire une boîte pour enfermer des chats volés aux vieilles femmes ? Ou bien accrocher les chauves-souris par les ailes à la porte de quelque usurier ?» Miltiade se borna à remuer la tête en signe de dénégation. Mais au même moment, il vit que son oncle, fâché pour tout de bon, allait le mettre à la porte. Il fit un effort sur lui-même et dit d'une voix basse et rapide « Tu sais, en passant par là-bas, nous avons vu la niche de Diogène. Alors nous avons pensé que ce chien allait bientôt revenir. Alors Evo a dit qu'il fallait lui faire une farce. Alors moi j'ai dit qu'il fallait garnir le tonneau de clous. En arrangeant bien la paille, le chien n'apercevra pas les pointes et puis il se couche qu'à la nuit. » Le charpentier avait écouté en souriant. « Oh, le garnement » fit-il. « Tiens, allez, voilà un marteau. Fais-en bien soin. Hein. Fais-moi voir les clous que tu as pris. Oh, mais ils sont beaucoup trop courts et trop gros. » L'artisan alla vers un casier où il fouilla de sa main rude. Il tria une centaine de clous bien longs et affilés comme des dents de redard, et les tendant à l'enfant, il ajouta « « Prends cela, petit, il ne faut pas éclater le bois, surtout enfoncer bien droit. » Miltiade, radieux, partit à toutes jambes. Son oncle le suivit quelque temps du regard, puis il rentra dans l'atelier où travaillaient 2 vieux esclaves dépréciés. Comme il était de joyeuse humeur, il leur raconta le bon tour qui se préparait. Et son récit fit rire à gorge déployée les 2 nègres, ainsi qu'ils riaient autrefois en Éthiopie. Cependant, sur la place au milieu de laquelle s'élevait le temple de Cybèle, le grand Aévéron dirigeait les préparatifs. D'abord, on avait couché le tonneau sur le flanc, on l'avait roulé le long du portique jusqu'à l'escalier de marbre, mais au bord de la première marche, il s'était échappé des mains qui le tenaient et par 3 bonds, il avait sauté sur le sol en grondant. Là, les enfants lui prirent tout ce qu'il possédait, des croûtes de pain et des petits morceaux de laine qui devaient provenir des trous d'un manteau. et tandis que ce grotesque corps de bois enfonçait son large ventre dans le sable, la troupe joyeuse se mit à danser autour de lui, en criant à tue-tête une chanson populaire de l'époque qui n'avait aucun sens. On aperçut enfin Miltiade qui accourait de toute la vigueur de ses petites jambes. Il arriva vite. Le grand Aévéon, à cheval sur le tonneau, se fit remettre le marteau avec une poignée de clous et commença à frapper d'une manière retentissante. « Assez, assez !» s'exclamèrent tous les gamins quand il eut planté le dixième clou dans toute la longueur d'une douve. « Oh, soyez tranquille !» répondit Aévéon avec autorité. « Il y en aura partout, même dans le fond. Le chien aura un beau collier de force. » Les impatients de la bande poussaient déjà le tonneau pour lui faire monter une nouvelle place et il vint se plonger les dards de fer. Aévéon, voulant se cramponner, étendit les mains comme s'il cherchait une crinière. Mais ses ongles glissèrent sur les lattes et le tonneau l'envoya rouler dans le sable ainsi qu'un œuf couché dans la prairie jette parmi les herbes d'un mouvement de sa puissante échine un jeune chien qui le tourmente. Aévéon se releva en maugréant au milieu de bruyants éclats de rire, car la foule s'était déjà assemblée et les curieux se retrouvaient à ce rendez-vous qui ne s'était pas donné. Vraiment, on dirait que dans les villes, les gens oisifs devinent où sont les spectacles, ainsi que les mouches volent d'instinct vers les cadavres et les fleurs. Les assistants s'intéressaient aux efforts des gamins, et bien que quelques-uns d'entre eux ne comprissent pas nettement ce qui se passait, néanmoins tout le monde s'amusait réellement. Aévéon, que sa chute et les plaisanteries des autres avaient mis de mauvaise humeur, ne voulut point s'occuper de rien. Alors un jeune homme, qui s'était arrêté parmi les spectateurs, se chargea d'achever la tâche et planta les clous d'une manière assez habile pour dessiner avec leur tête des poignards et des glaives. Cet artiste de bonne volonté se nommait Appel. C'était un élève du peintre Paraphile, venu de Sicyone pour étudier les chefs-d'œuvre de l'art athénien. Sur ces entrefaites, l'oncle de Miltiade arriva. Il avait fermé son atelier plutôt que de coutume, afin de venir un peu voir où les choses en étaient. Il apportait un sac de clous quadrangulaire qu'il avait trouvé dans un coin de sa cave, où il s'était rappelé vaguement les avoir autrefois déposés. En jouant des coudes, il parvint au premier rang, et après un rapide examen, il se mit à l'œuvre. Lançant à toute volée son marteau habituel dont il s'était chargé, avec l'air grave d'un vieux charpentier qui se livre aux exercices de sa profession. Quand il eut vidé son sac, il s'accroupit devant l'orifice d'un tonneau, et là, frappant à l'intérieur de tous les côtés, il enchevêtra les clous, les croisa, les tordit, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout où son bras pouvait atteindre. Lorsqu'il se recula, le tonneau avait perdu son aspect réjouissant et débonnaire. C'était désormais un animal féroce, brutalement excité, un monstre fantastique qui ouvrait une large gueule mauvaise, à plusieurs mâchoires armées de 1000 dents épouvantables. La foule avait grossi lentement comme en un jour de fête ou d'émeute. Un grand brouhaha s'élevait de la place envahie. Les curieux, qui se pressaient dans les rues adjacentes, demandaient ce qui était arrivé et les bruits les plus contradictoires circulaient dans les groupes. « Oh, c'est un discours !» disaient les uns. « C'est un cheval mort !» soutenaient les autres. « C'est un sacrilège !»« Oh, ce sont des singes et des baladins !» Des chiens perdus couraient en tous sens, effarés et muets. Les hommes et les femmes se donnaient des poussées rudes, sans ménagement ni colère. Les enfants, portés dans les bras, criaient. La foule augmentait sans cesse avec une forte rumeur. Les exclamations, les appels lancés à plein poumon passaient sur des centaines de têtes, allant au loin, ainsi que des mouettes glissent sur les vagues innombrables avant l'orage. Les hommes du peuple, qui portaient des viandes rouges sur leurs épaules nues, sifflaient avec deux de leurs doigts des notes stridentes. Une poussière épaisse s'élevait en brillant dans le soleil. Tout à coup, une voix tonna : « À la mer !» Ce fut une révélation. 5 ou 6 000 personnes se mirent à hurler sans trêve, comme si elles fussent vaincues, venues par cela. « À la mer ! À la mer !» Les curieux de la première heure, les initiés, essayèrent de parlementer. On faillit les mettre en pièces dans les clans général. Sur la place, on s'écrasa jusqu'à ce qu'une trouée fût faite. Alors le tonneau, tournant comme une vieille rille formidablement emmanchée, pénétra dans la cohue. Il traversa des jardins et des places, une suite de quartiers. Puis s'enfonçant dans toute la longueur d'une rue droite, il vint se précipiter dans la Céphise. La foule s'étendit rapidement sur la rive, curieuse de savoir pourquoi elle avait ainsi crié et couru. Elle aperçut, avec stupeur, un tonneau de grandeur ordinaire qui prenait lentement le fil de l'eau, pendant que des énergumènes, longeant la berge, lui jetaient les pierres qui roulaient bas sans l'atteindre. Elle accompagna machinalement cette épave insolite qui s'en allait, avec un petit balancement, jusqu'à l'embouchure du fleuve. Là, les citoyens d'Athènes, avant de retourner à leurs affaires urgentes, s'arrêtèrent un instant pour rien, sans même avoir eu l'idée de rire. Et devant leurs yeux, le simple tonneau, tout paisible et débarrassé des hommes, partit sur les flots immenses où passent à tire-d'aile les navires aux voiles blanches et où le ciel se baigne à l'horizon. Chapitre 5e. Cependant, Diogène avait de son côté repris le chemin d'Athènes. En se muant du petit bourg de Sélasie, il n'avait plus reconnu sa route et s'était vu contraint de demander quelques renseignements. Le premier passant qu'il avait consulté s'était empressé de lui indiquer un sentier dans l'est. Un second passant s'était contenté de lui montrer du doigt un bois dont le sombre profil se perdait à l'ouest, dans la brume. Le cynique, sans remarquer leur réponse, avait persisté à marcher droit devant lui à tout hasard. Bien lui en avait pris, car il avait revu Tégée, plus tard la ville d'Argos et Mycène. Lorsqu'il rentra dans sa patrie d'adoption, il ne trouva pas que de grands changements s'y fussent accomplis. Il vint présenter ses devoirs à Antisthène, qui le reçut froidement. Il ne manqua pas de faire visite vers l'heure du repas au brave Mylas, qui s'était remarié et qui le congédia d'une manière rapide. Enfin, Diogène alla voir ses amis Phérécrate et Olympiodor, ainsi qu'un chien de forte taille qu'il connaissait dans le quartier de Mélite. En passant devant la demeure de Platon, il remarqua sur le vestibule l'inscription suivante « Que nul n'entre ici sans savoir la géométrie ». Cela fit ricaner Diogène, qui méprisait également les mathématiques, l'astrologie et la musique. Il demanda à voir le célèbre philosophe. Un esclave lui répondit qu'il était alors à Syracuse, auprès du roi Denis. Diogène n'insista pas, mais il alla conter partout que Platon se faisait entretenir par un tyran. Aussi, lorsque ce dernier revint de Sicile, un ami commun lui ayant immédiatement révélé les propos de Diogène, il alla se promener dans l'agora où il vit le cynique, modestement occupé à préparer son repas. Il se pencha à son oreille et lui dit tout bas ben, « Si tu avais fait ta cour à Denis, tu ne serais pas réduit à éplucher des herbes. » « Et toi ?» cria de toutes ses forces Diogène. « Si tu avais épluché des herbes, tu n'aurais pas fait la cour à Denis. » La foule s'ameuta subitement et Platon dut s'esquiver, poursuivi par les invectives d'un peuple libre. Diogène, ayant rencontré à Pémante le seul ami de Timon, lui en demanda des nouvelles. « Hélas, répondit à Pémante, sais-tu donc pas que ce gueux est mort ?» Et voyant Diogène tout surpris, Apémante reprit « Oui, figure-toi qu'il y a 15 jours, des petits pâtres qui conduisaient dès l'aube leurs brebis sur la pente de l'Imette entendirent de grands éclats de rire qui se répercutaient dans la montagne. Les enfants, ayant très peur, s'enfuirent. Et pendant 4 jours, on entendit du pied de l'Imette retentir les accents d'une joie sonore qui semblait être celle d'un dieu. Les prêtres ordonnèrent des offrandes et prédirent des événements terribles. Enfin, le 5e jour, comme la montagne était revenue silencieuse, quelques curieux se hasardèrent à la gravir. Ils arrivèrent bientôt devant un châtaignier au tronc duquel Timon était adossé. Le misanthrope s'était brisé la jambe droite en tombant de l'arbre, et il était mort sans doute de fièvre, ou peut-être parce que ces loups avaient commencé à le manger. « Oh, voilà un événement bien tragique, » dit Diogène. « Et qu'a-t-on fait du cadavre ?» Apémante reprit. « Bon, on l'a enterré près de la mer, à Alès, et on a mis sur sa tombe l'épitaphe qu'il s'était composée. Passant, ici gît un corps dont tu n'as pas besoin de connaître le nom. Puisses-tu avoir une fin misérable ?» Quelques jours après, le terrain du rivage s'est éboulé et les flots ont entouré le sépulcre comme pour le rendre inaccessible aux hommes. Cependant, Diogène s'occupa de sa réinstallation. Pour l'indemniser de la perte de sa pauvre demeure, quelques braves gens du Pirée imaginèrent d'ouvrir une souscription où l'on recevait les dons en argent et en nature. Les Athéniens se montrèrent généreux. Ils aimaient beaucoup Diogène, tout en étant un peu jaloux de son sort, car le cynique vivait insouciant et joyeux, libre d'attaches, sans serviteurs, ni femmes, ni petits-enfants. Les dons en argent montèrent à 800 drachmes, mais, par suite de circonstances, cette somme ne fut jamais remise à Diogène. Les dons en nature furent très nombreux. Il arriva 3 peaux d'ours, 6 manteaux, 150 œufs de poule, une grande tonne d'huile en terre grise et 20 outres recouvertes de poils de chèvre pleines de blé et de haricots. Pour sa part, Diogène obtint un beau manteau vert plus la tonne en terre grise que les braves gens du Pirée vidèrent dans leurs bornes cruches jusqu'à la dernière goutte, afin d'en faire un logis bien sec. Alors Diogène, revenu sous le portique de Cybèle, la grande mère, fonda brusquement un système de philosophie sans avenir, celui de la tranquillité. Était-ce même un système? Voilà bien la première chose dont Diogène ne s'occupa point. Mais il aurait pu, sans doute, poser solidement son temple sur ses principes, la charpenter avec des raisons hautes et de couvrir de quelques majestueuses théories formant fronton. Dans son livre intitulé « Mégarique, Théphraste », rappelle que Diogène avait pris son idée d'une petite souris qu'il avait vue courir. Quoi qu'on en doive penser, il y eut un remarquable émoi dans la ville lorsque se répandit cette rumeur. Diogène ouvre une école où il enseigne une doctrine nouvelle. Car, ainsi qu'il est dit tout aux Actes des Apôtres, les Athéniens, les étrangers qui demeuraient à Athènes, ne passaient tout leur temps qu'à dire et à entendre dire quelque chose de nouveau. Aussi Diogène, qui restait pendant des heures de soleil au Pompéion, se vit-il bientôt entouré d'une foule sympathique. Il laissa les gens faire sans rien dire. Et pendant 2 mois entiers, un monde intelligent et curieux vint se ranger sous les yeux du philosophe qu'il examinait d'un regard circulaire où n'y prenait garde, se causant à lui-même, dormant, lavant son manteau, faisant sa cuisine ou s'éloignant d'un air grave. Vers le troisième mois, lorsqu'une centaine de personnes tenaces se trouvèrent assemblées sur la place, Diogène s'assit par terre, croisa lentement ses jambes et prit la parole en ces termes. « Ô hommes athéniens, je vais vous enseigner la sagesse. Contre votre bonheur, deux ennemis conspirent. D'abord vous-même, ensuite tout le reste. Avec vous-même, le mieux est d'agir comme vous l'entendez. Quant au reste, dans les rapports auxquels vous êtes soumis avec les individus, les lois et les forces naturelles, il faut vous comporter ainsi qu'il vous est possible. Maintenant, je vous quitte pour aller chercher au bois les champignons nécessaires à mon repas du soir. Ô hommes athéniens !» Diogène se leva et traversa la foule. Un auditeur, qui le trouvait trop fier, lui cria « Bon, je demande moins d'insolence à un homme pendu en effigie. » « Misérable, lui répondit avec calme Diogène, c'est ce qui m'a rendu philosophe. » Un cabaretier reprit pour faire l'important, « Ceux de Sinope t'ont chassé de leur pays. »« C'est vrai, répliqua Diogène, moi je les y ai laissés. » Et, drapé dans une empereur dans son manteau vert d'où sortaient ses grandes jambes nues, il regarda fixement l'auditoire où les uns vociférèrent, où les autres applaudirent, ainsi qu'il y aura toujours des gens satisfaits et des mécontents. De ce jour, Diogène se livra paisiblement à toutes les excentricités dans la belle Athènes, n'ayant souci ni des mœurs ni du texte des lois. Il ne s'imposait aucune contrainte et quelquefois il se promenait nu pendant les grandes chaleurs, en faisant des gestes indécents. Cela ne devait le mener à aucune position sérieuse. Se trouvant sur un vaisseau qui allait à Égine, il fut pris par des corsaires. Lorsqu'Hyrbaros était le chef et qu'exerçaient au péril de leur vie ce métier courageux et dur de ravir les biens et la liberté des autres. Par leurs soins, Diogène fut conduit en Crète, l'île bienheureuse des archers noriens, pour être exposée dans un bazar d'esclaves. Dans la ville de Knossos, où régna le divin Minos, il existe un grand marché de femmes et d'hommes. Vers la 12e heure du jour, les marchands, sortant de la voûte qui précède la cour ronde, amènent leurs esclaves et les poussent à la base des colonnes en marbre noir. Voici, sur le premier rang, les beaux garçons d'Égypte, les eunuques à la peau douce, les bouffons, les filles d'Asie et les joueuses de harpe. On a rangé derrière ces esclaves de luxe, dont les pieds sont blanchis à la craie pour indiquer qu'ils n'ont pas encore servi, des nègres aux cheveux crépus et de lourds athlètes. Dans le fond, on aperçoit encore quelques individus coiffés d'un bonnet et par suite vendus sans garantie. Ce sont des esclaves âgés ou vicieux, les uns marqués au front du fer rouge, les autres à l'oreille d'un coup de rasoir. Et puis les femmes enceintes et des petits-enfants. Déjà les enchères viennent de s'ouvrir et les acheteurs s'empressent autour de la plateforme sur laquelle on fait successivement monter les esclaves, pendant que les jeunes filles de famille circulent en devisant sous la colonnade. Le crieur lit de sa grosse voix la tablette suspendue au cou de chaque sujet. « Pyrias neo bitini, n'est pas enclin au vol, ni à la fuite, ni au suicide, au prix de 3 mines. Zophirion, d'origine inconnue, sujet à l'épilepsie, caractère doux, 200 grammes. Tiata, femme de 25 ans, née en Thrace, garantie féconde. Bonne prostituée, manque de dents, à vendre, 7 mines. Tibios, paphlagonien très robuste, connaît la grammaire et la poésie, ivrogne, nage bien, occasion 5 minutes, mine. Sacas, joli maître, âgé de 16 ans, bien épilé, 15 minutes. tout châtré, 20 mine. Diogène, assis sur la marche d'un escalier, soutenant sa tête dans la paume de ses mains, vêtu de son manteau vert dont la brise marine a fortement altéré la couleur, regarde avec intérêt ce spectacle dégradant et nouveau. Il pense bien des choses, au beau temps qu'il fait, au charme de l'oisiveté, à ses amis d'Athènes. Comme Platon, comme Antisthène, s'amuserait tout à l'heure s'il était là pour assister à son vente. En fait, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir coûter? Oh, sans doute moins qu'une vierge, qu'un eunuque, qu'un jardinier, moins que rien. La valeur d'un philosophe. Qui sait, cependant? Il pourrait convenir à un amateur, curieux de compléter une collection de philosophes, n'ayant pas réussi. Lui, cynique à côté de l'Érythréa, de l'Olympique ou du Philarète, prendrait rang et serait d'un bon usage pour discuter avec les fournisseurs, amener les courtisanes et chasser les mendiants. Enfin, voici le tour de Diogène venu. Un de ses maîtres le pousse d'une manière brutale sur le socle des enchères. Le crieur lui arrache son manteau, mettant à nu son buste puissant, ses larges épaules, ses cuisses maigres et musculeuses. « Que sais-tu faire ? » demande un fabricant d'épées. « Mépriser les hommes pour te servir, » répond Diogène en s'asseyant négligemment sur la pierre. Mais d'un coup de fouet, Skirpalos le fait relever. « Crieur, » reprend le philosophe, « appelle ce gros homme qui a sur sa veste une si belle bordure. Il doit avoir besoin d'un maître. » Et Diogène désigne, en parlant ainsi, Xéniade, célèbre marchand de Corinthe. Celui-ci s'approche en souriant. Ben, « Achète-moi donc, » dit Diogène, « je t'assure que tu me plais. » Un rude cultivateur qui a besoin d'un homme d'alerte pour tourner un manège met quelques enchères. Et c'est bien 3 mines que doit payer le Corinthien Xéniade pour emmener Diogène dans sa ville. Ce dernier reprend, avec un mouvement de plaisir, son vêtement et sa besace usée, dans laquelle les pirates n'ont pas soupçonné la présence d'une timbale d'argent aux profondes ciselures. L'esclavage est encore ce qu'on a trouvé de plus charitable à offrir aux gueux. En échange du simulacre de liberté qu'ils perdent, ils acquièrent la certitude d'obtenir une alimentation suffisante, d'être soignés en cas de maladie. Accouplés pour la reproduction à des créatures saines, ils n'ont pas l'entretien des enfants qu'ils font, ni la charge de leurs vieux parents. Ils peuvent rester crasseux, s'enivrer du vin de Leucade, mêlés de plâtre, devenir sourds et se livrer à des actes immondes, sans compromettre leur situation. Sur le port de Sancrée, à 70 stades de Corinthe, Xéniade habitait un palais renommé pour ses péristyles et ses vestibules. Il y vivait des jours heureux dans une atmosphère tiède auprès de son épouse Massarie et de ses enfants. Xéniade était le type parfait de l'homme qui dirige une industrie prospère, jouit d'une bonne santé, possède une famille nombreuse et de beaux appartements. Le lendemain de son retour de Knossos, en se promenant seul à quelque distance de sa demeure presque royale, il aperçut Diogène qui se roulait au soleil dans le sable chaud de la plage. Lui ayant fait signe d'approcher, « Quel est ton nom ? » dit-il. Le philosophe répondit, « Diogène de Sinope. Diogène ou simplement chien ?» Xéniade, lui ayant ensuite demandé ce qu'il savait faire, le cynique ne tarda pas à lui inspirer, par la forme de ses réponses, une haute idée de la vigueur de son esprit. « Bien, j'ai 2 fils, lui déclara son maître avec bienveillance, dont je ne puis rien obtenir. Dignas et Carmide sont 2 jumeaux de 17 ans. Perles d'élégance et de prodigalité, ils n'entendent encore que monter à cheval, dresser les meutes de lévrier et chasser le renard. Peux-tu te charger de compléter l'éducation de mes 2 enfants ? Je souhaiterais qu'ils apprissent la science mathématique, les dialectes, la musique, la peinture. » Des prodiges fabuleux, l'histoire, la thérapeutique et une foule de sciences dont j'ignore les noms. Diogène accepta cette proposition. Dans l'espace de 3 ans, il enseigna à ses élèves l'art de parler peu, de payer les services au juste prix, de ne point prêter d'argent, de partager la vie des plus forts, et de mentir en principe, car il est toujours facile, si quelque avantage en résulte, de rétablir la vérité. Quand ce temps fut accompli, Diogène alla trouver un soir Xéniade qui était sur le point de s'endormir et lui dit « J'ai fait pour l'éducation de Dignas et de Charmide mieux que tu ne m'avais demandé. »« Bon, » murmura le Corinthien en bâillant, « bien pour récompense, je t'accorde la liberté. Allez, tu peux rester là, vieillir oisif dans ma demeure, et lorsque tu mourras, on aura soin de ta sépulture. » Mais le cynique avait appris à connaître la valeur des promesses et ne s'y attachait point. Il appréciait aussi l'importance des formalités. Après avoir importuné son maître jusqu'à ce que celui-ci lui eût remis sur une tablette l'acte d'affranchissement, Diogène se rendit chez un héros pour l'inviter à lire cette déclaration dès le lendemain dans les temples. Afin d'encourager le fonctionnaire à accomplir ponctuellement son devoir, il lui donna l'assurance, à tout hasard, que Xéniade le récompenserait bien. Puis il regagna directement l'écurie qu'il habitait, dépouilla la tunique et les chaussures qu'il devait à la générosité de son maître, et les posa proprement dans un coin. Ensuite il ouvrit un grand coffre qui contenait la provision des chevaux, et en y fouillant de toute la longueur de son bras, il retrouva son bâton, sa besace, son vieux manteau et sa timbale d'argent. La cachette d'ailleurs était choisie et sûre, car les cochers de Xéniade, qui toutes les semaines faisaient payer à leur maître une pierre de fourniture d'avoine, se gardaient bien de vider le récipient jusqu'au fond. Diogène, ayant repris les insignes de son indépendance, s'éloigna dans la ville. La nuit était bleue et les brusques aboiements des chiens traversaient le vaste silence dans toute sa largeur. Chapitre 6e. Dans Corinthe prévalait le culte de la douce Cypris. Les hommes étaient vigoureux, les femmes belles et les lois indulgentes. Il en résultait beaucoup de volupté. Quiconque voulait mener à bien son entreprise promettait à la puissante Aphrodite de lui offrir un certain nombre de petites filles qu'on allait acheter un peu partout dans les familles pauvres et qui devenaient en quelque temps d'excellentes étaïres. En l'an 2 de la 103e Olympiade, il n'était bruit dans toute la Grèce que d'une Corinthienne nommée Laïs, fille ingénieuse et jolie, qui avait déjà satisfait un grand nombre d'amants et ruiné beaucoup d'hommes riches. Aussi était-elle fréquentée par des personnages de distinction. Elle se montrait vicieuse, ce qui lui valait la sympathie des gens spirituels. Elle était généreuse et s'était fait ainsi beaucoup d'ennemis. Un certain Épicrate, poète assez mince, qui avait reçu d'elle un secours d'argent et qui ne lui avait pas jamais pardonné, venait de composer une méchante comédie, l'Anti-Laïs. Un philosophe aimable, Aristide le Cyrénéen, avait répliqué par une étude intitulée « Laïs et son miroir », qui avait fait sensation. L'héroïne de ses ouvrages tenait donc une énorme petite place dans la vie corinthienne. C'était la frivolité ravissante et détestable qui ennuyait tout le monde d'une charmante façon. Vêtue d'une éclatante tunique blanche qui dessinait ses formes, depuis la pointe des seins jusqu'aux talons chaussés d'or, elle passait habituellement ses journées dans l'amphithalamos, où des lits, dressés en manière d'estrade, offraient une pose douce à ses compagnons, qui venaient perpétuellement la visiter et tenir propos sur les ajustements, dépenses à disposition, rivalités et toutes choses féminines. Comme la plupart des amoureuses de profession, Laïs était lente à s'éveiller et surtout à s'endormir. Le soir, elle se plaisait à bavarder sur les phénomènes de la vie courante, avec les débauchés étendus sur sa couche, lorsque ceux-ci lui étaient connus. Une fois, en devisant de la sorte, elle entra en querelle avec un opulent patron de navire phénicien. C'était un avare, toujours préoccupé de défendre l'intégrité de sa fortune qu'il avait acquise petit à petit par un travail opiniâtre. Laïs, pour la seule joie de l'éblouir, lui racontait les merveilles de son luxe et les dépenses fabuleuses de son train de maison. Mais l'ancien navigateur sentit un danger, ainsi qu'il sentait venir jadis les vents éthésiens. Alors il recourut à des plaisanteries lourdes sur la prodigalité des femmes entretenues, et finit par dire assez insolemment à sa compagne qu'elle s'était toujours livrée par l'appât du gain. Profondément indigné de ce légitime reproche de vénalité, Laïs résolut de prendre sa revanche avant l'aurore. Quand l'autre fut plongée dans un profond sommeil, elle appela l'esclave phrygienne qui se tenait toujours à portée de sa voix et la chargea d'aller quérir, par les rues de Corinthe, le plus misérable vagabond qu'elle apercevrait. Peu de temps après, quelqu'un était introduit dans un salon de l'étaïre corinthienne. C'était Diogène, que la jeune négresse avait trouvé dormant à ciel ouvert pour fêter sa libération. Il s'avança tranquillement dans la pièce, posant avec plaisir ses pieds nus sur les tapis babyloniens où s'entrelaçaient des fleurs bizarres et des animaux fantastiques. Il étendit le grand bâton dont il était muni sur une table d'ivoire au milieu des coupes et des fleurs amphores. Il raccrocha sa besace à un trépied de bronze et s'assit nonchalamment dans un grand fauteuil qui avait pour bras deux sphinx. Il regarda entrer Laïs d'un œil qui ne se donnait plus, et sans exiger d'explication, la vengea sommairement. C'est ainsi que Diogène, le chien, fit connaissance de la courtisane Laïs. Par un merveilleux concours de circonstances, le cynique fut bientôt à même d'agir en maître dans cette maison où le hasard l'avait amené. De fait, Laïs eut un caprice très vif pour lui, et ce sentiment fit place dans la suite à une solide amitié. Mais Diogène était un garçon d'une humeur singulière. Sans raisons apparentes, il se lassa de manger le pain d'une prostituée et de finir en sa compagnie des nuits commencées par elle avec des gens qu'il méprisait. « Laïs, dit-il un matin, « oh, je vais retourner à Athènes. Il est probable que je n'aurai pas de peine à t'oublier, mais en ce moment, je me rappelle bien toutes les joies que tu me fais goûter, et je t'en remercie. Je voudrais en outre pouvoir te donner de l'argent, mais j'en suis complètement dépourvu. Du moins, je te prie d'accepter ce petit souvenir. » Et Diogène tendit sa précieuse timbale d'argent à la jeune femme, qui n'avait pas envie de rire ni de pleurer. Il s'en alla d'un pas égal et rencontra près de la porte le beau chien de garde qui lui fit fête. Profitant de sa disparition, Diogène lui déroba son écuelle et la jeta lestement dans la besace qu'il portait sur le dos. Chapitre 7e. Au commencement de l'an 365, Diogène était revenu habiter sous les colonnes du temple de Cybèle. Ayant repris chez Xenia d'Elaïs l'habitude du luxe et du bien-être, il adopta deux résidences comme le grand roi d'Arios. Dès les premières chaleurs, Diogène partait pour Corinthe, en faisant rouler devant lui sa vieille tonne en terre grise qui lui suffisait d'inonder d'eau pendant les ardeurs de la température pour y trouver la fraîcheur. Il retournait passer l'hiver à Athènes, où il garnissait sa demeure avec des chiffons moelleux. C'est alternativement dans ces villes qu'il instruisait ses disciples. Monime, un ancien domestique, le riche Cratès, Ménandre, qui admirait Homère, Égésée de Sinope, l'historiographe Anaximène de Lampsac et Philiscos d'Égine. Le cynique vieillit peu à peu au milieu de cet entourage d'hommes modestes et sans préjugés. Sa longue barbe et ses cheveux blanchirent, mais il ne cessa pas d'enseigner ses préceptes favoris. Les choses et les personnes devaient être communes. La noblesse et la gloire n'avaient que de vaines apparences. Il n'était pas déraisonnable de manger de la chair humaine, ni intéressant de rechercher si les dieux existaient ou non. Les femmes avaient des formes déshonnêtes, les orateurs mentaient effrontément. Les philosophes chiens devaient caresser ceux qui leur donnaient quelque chose et aboyer après ceux qui ne leur offraient rien. Et Diogène avait conservé en outre des façons particulières de se comporter. Si on le quittait pendant qu'il parlait encore, il ne laissait pas que d'achever sa phrase. Lorsqu'il avait envie de rendre publique une pensée, il annonçait une harangue. Souvent, les promeneurs continuaient indifféremment leur chemin. Alors, Diogène se mettait à chanter quelques complaintes lamentables. Et dès qu'il avait réussi à former un attroupement, il s'en allait en haussant les épaules avec mépris et en disant « Pourtant, j'aurais parlé juste et j'ai chanté faux. » Quand on lui rapportait que des gens faits, sans fin et sans intelligence, l'avaient plaisanté, il répondait, après réflexion, « Oh, je ne m'en tiens pas pour moquer. » Il déblatérait d'une voix affaiblie par l'âge contre les passants, les célibataires, les époux, la fortune, les tireurs d'arc, les fonctions naturelles et le reste. Il faisait des traits d'esprit. Voyant au terme un jeune garçon qui avait la réputation de dérober les vêtements, Diogène lui demanda s'il était venu pour prendre un bain ou simplement des habits. Quelqu'un l'ayant heurté d'une poutre en lui disant, trop tard, selon la coutume, « Prends garde !» Il lui donna un coup de son bâton, taillé dans un olivier franc, s'écriant, « Prends garde toi-même !» Pour éprouver l'affection d'un ami, il le pria de porter un demi-fromage à une distance de 50 pas. L'autre, croyant à une pure plaisanterie, se fâcha furieusement, et Diogène lui dit avec mélancolie, « Un demi-fromage a rompu notre amitié. » Le cynique employa de la sorte 30 ans de sa vie. Il atteignait sa 77e année lorsqu'il entra en rapport avec Alexandre de Macédoine. Alexandre le Grand, ainsi que les autres hommes, était doué de bons et de mauvais penchants. À la vérité, il tua son compagnon Clitos dans un repas. Mais son désespoir fut tel qu'il renonça pendant quelques jours à l'ivrognerie. Assez dédaigneux des usages, il ne commanda pas de crever les yeux de 3000 barbares qui s'étaient livrés à sa merci après la bataille du Granic. Lorsqu'il eut fait mutiler et mettre à mort Callisthène, dont la hardiesse était insupportable, il donna des instructions nécessaires pour qu'on exposât le corps à la curiosité des gens que ces sortes de spectacles intéressent. Enfin, il perça lui-même d'une sarisse oxyante, fils d'Abolites, parce que c'était un mauvais satrape. Il importe de connaître ces particularités d'un cœur magnanime pour trouver vraisemblable l'anecdote qui suit, bien que les circonstances en aient été popularisées. En l'an 365, les Grecs, assemblés à l'isthme de Corinthe, venaient de confier à Alexandre les fonctions de généralissime. Le roi de Macédoine étant venu se promener vers la tombée du jour dans le Cranion, suivi d'une foule nombreuse, écoutait avec un sourire d'encouragement un projet grandiose que lui exposait l'architecte Stasicrate. « J'ai trouvé, disait avec feu ces artistes, que tu ressemblais au mont Athos, et en y retouchant un peu, j'en ferai la statue inébranlable. Tu poseras les pieds sur le rivage de la mer. Tu tiendras dans la main gauche une ville de 10 000 habitants, et sous ton bras droit, une urne penchée versera un fleuve dans la plaine. Tu auras pour chevelure des forêts, peignées par des vents. » « Mais quel est cet homme sordide ? » interrompit Alexandre, « qui ne se lève pas à mon approche. » Et il désignait du doigt Diogène, réinstallé de la veille à Corinthe, qui se reposait dans sa tonne des fatigues du voyage. Puis, sans attendre de réponse, le général en chef des Grecs s'avança vers le vieux philosophe qui ouvrit un œil. Je suis, dit-il, le grand monarque Alexandre. Moi, répliqua l'autre, je suis Diogène le chien. Alexandre avait entendu parler des singularités de son interlocuteur. Il avait même conçu pour lui une certaine sympathie, et il lui en offrit la preuve. Et que puis-je faire pour toi? Demanda le futur conquérant de l'Asie avec majesté. Le cynique s'agitait depuis un instant dans son tonneau, comme un homme qui ne se trouve pas assez bien tel qu'il est placé. Quand il fut assez réveillé pour apprécier la cause de son malaise, retire-toi de mon soleil, répondit-il en montrant l'horizon. Alexandre, un peu décontenancé d'abord, ne tarda pas à se remettre et à se retirer en déclarant que s'il n'avait pas été Alexandre, il aurait voulu être Diogène. Au reste, ce propos ne l'engageait pas à grand-chose. Après cette aventure, le cynique vécut environ encore 11 ans. Mais l'extrême vieillesse lui avait donné une humeur sombre et pénible à supporter. Il ne se décidait plus à parler lorsqu'il était seul. Il restait chez lui durant des journées entières, immobile et couché sur le ventre. Il mourut à Corinthe dans le cours de la première année de la 114e Olympiade. Et les causes de sa mort sont diversement rapportées. Les uns prétendent qu'il succomba à un épanchement de bile causé par un pied de bœuf cru qu'il avait mangé. D'autres soutiennent qu'il termina son existence en retenant son haleine. On dit encore que, voulant partager un polype à des chiens, il fut tellement mordu par un de ces animaux à un nerf du talon qu'il en rendit l'âme. Ses disciples étant venus le voir un matin, selon leur coutume, le trouvèrent enveloppé dans son manteau. Après une longue attente, étonnés de la rigidité de son corps, ils découvrirent leur vieux maître. Et le trouvant expiré, ils supposèrent que c'était volontairement par un désir de sortir de la vie. Il y eut une dispute entre les disciples pour savoir qui l'ensevelirait, et même ils en vinrent aux mains afin de se mettre d'accord. Enfin, Diogène fut enterré près de la porte qui conduisait à l'isthme. On mit sur sa tombe un chien en pierre de Paros.